Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
En principe, le médecin n'est pas censé poser la moindre question. La stérilisation volontaire est légale en France depuis 2001. La seule obligation du praticien est de respecter un délai de réflexion de 4 mois entre la demande et sa confirmation. En France, pendant très longtemps, la stérilisation volontaire a été interdite, au nom d'un principe de non-mutilation du corps qui remonte à Napoléon. Cette méthode de contraception renvoyait aussi aux heures noires du nazisme, mais pas si loin, à une forme d'eugénisme social pratiquée en Suède, notamment jusque dans les années 70. On a stérilisé les enfants d'alcooliques, de handicapés mentaux, de repris de justice pour une société soi-disant plus harmonieuse. Jusqu'en 2001, les médecins qui procédaient en France à une stérilisation féminine le faisaient donc au compte-gouttes. De peur d'être poursuivis par les tribunaux, ils imposaient de nombreuses restrictions, explique Martin Vinclair sur son site. Les stérilisations étaient pratiquées parfois par compassion, parfois de manière arbitraire. Souvent, pour des raisons aussi paternalistes que celles qui motivent le refus de stériliser. Au nom d'une conception morale de la fécondité ou en vertu d'une idéologie encore teintée de l'idée qu'une femme ne s'accomplit que si elle a des enfants. En France, il semble que la réflexion exigée par les médecins au sujet de la fécondité, note encore ce médecin graphomane, est réservée aux situations où les femmes, surtout les femmes, décident de ne pas avoir d'enfants, comme la contraception, la stérilisation et l'IVG. Comme si la décision d'avoir des enfants n'était pas au moins aussi lourde de sens et de conséquences que celle de ne pas en avoir. En pratique, malgré sa légalisation, la stérilisation aujourd'hui continue à susciter l'hostilité des gynécologues. Comme pour les demandes d'IVG, ils sont en droit de refuser de la pratiquer. Les démarches des femmes ressemblent alors souvent au parcours du combattant, comme on l'entend aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, avec 3 histoires de stérilisation racontées par Zineb Drieff jusqu'à 14h sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai 40 ans, j'ai 2 enfants, j'ai un mari depuis bientôt 22 ans. Je me suis fait poser un stérilet aux hormones. Je suis allée voir un gynéco, un gars que je ne connaissais pas, un vieux. Je lui ai demandé de me poser un stérilet, il m'a dit ok. Ça a pris une demi-heure. Je sais pas, peut-être que j'étais trop nerveuse, impossible de passer, mais il a forcé quand même dans l'utérus, contraction de fou. En plus, un espèce de macho. Visualisez, vous êtes allongé sur la table déjà, les 4 fers en l'air, c'est pas très plaisant. En soutien-gorge, parce qu'avant il vous a palpé les seins, il revient et il vous dit on en mangerait. Déjà là, blocage. Forcément, c'est pas passé, mais il a forcé quand même pour le placer. Donc j'ai souffert le martyr, je vais pas vous dire plus qu'un accouchement, mais c'était des vraies contractions horribles. Pendant une semaine, j'ai eu mal, j'ai saigné, enfin c'était l'enfer. Il a fini par me filer des cachets anti-hémorragiques parce que je pense qu'il y avait un problème. Je l'ai gardé un an, super mal placé, j'avais mal au ventre tout le temps. Pendant les rapports avec mon mari, c'était l'enfer, j'avais mal, vraiment. J'ai fini par aller voir un autre gynécologue. Bon, ça s'est bien passé, j'ai repris la pilule. Mais je suis pas faite pour ça, ça me saoule, quoi. D'avoir cette contrainte horaire, d'avoir tous les soirs de me dire, bon, il faut que je prenne la pilule. Donc j'y suis retournée, quoi. Je lui ai dit, bon, remettez-moi des pilules même, quoi, tant qu'à faire. Parce qu'il faut savoir qu'avec le stérilet aux hormones, vous n'avez plus de règles. Bon, il me l'a replacé, là, vraiment génial, ça a pris 5 minutes, super. Sauf que très bien placé, le stérilet aux hormones. Alors il y a plein de gynécos qui vous diront que c'est pas vrai. Bon, ce qui me concerne, c'est maux de ventre, ballonnement, poids, douleur au dos aussi. Et quand j'ai vu que des nénettes, au bout de 2 ans, elles avaient pris 10 kilos, je me suis dit non, c'est pas possible. Je vais pas prendre 10 kilos. Je me sentirai pas bien dans mon corps, quoi. C'est pas moi. Donc je l'ai fait retirer et là, j'ai cherché une autre méthode. En faisant des recherches sur Internet, j'ai essayé de voir les solutions alternatives à la ligature des trompes. La ligature, vous êtes quand même obligé de passer en chirurgie, on vous ouvre le ventre, même si c'est des petites ouvertures, on vous ouvre quand même. Et je suis tombée sur ce qu'on appelle la méthode Essure, ce qui qui est la stérilisation tubaire par les voies naturelles, sans cicatrice, juste on vous pose des ressorts dans les trompes et voilà, ça se bouge tout seul quasiment au bout de 3 mois. Ça me paraissait être un moyen plus naturel, même si ça ne l'est pas. Voilà. C'est une visite chez le gynéco, ça va me prendre 2 heures, sans douleur, sans quasiment d'anesthésie. Voilà, rapide, efficace. Moi, je veux pouvoir trouver une alternative à la pilule. À 40 ans, je pense pouvoir profiter de ma vie de femme encore longtemps et sans contrainte. Voilà. Je prends une décision de femme. Je ne veux plus d'enfants, je choisis une méthode définitive pour ne plus en avoir, puisque de toute façon, je sais que je n'en aurai plus. Je voulais me faire stériliser, ça c'était sûr, mais je voulais quand même le faire par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. C'est quand même mon corps, et avec les expériences que j'ai eues avec mes différentes poses de stérilet et tout ça, je sais ce que c'est que tomber sur un mec bouché à 1 an de la retraite qui vous fait n'importe quoi, qui en plus vous plotte à moitié quand il vous le fait, bon c'est pas... Voilà. Je l'ai trouvé sur internet, j'ai pris un rendez-vous, ça a été facile, hein, j'ai téléphoné, j'ai gardé le numéro un moment, quand même, parce que je me suis moi-même laissé quelques semaines de réflexion, en me posant les questions, est-ce que tu es vraiment sûre de ce que tu veux faire ? J'ai pris rendez-vous, ça a pris un mois et demi, 2 mois, donc là encore, bon, j'ai réfléchi. Et quand je suis arrivée, en fait, j'avais peur de tomber sur une nanette qui allait me dire, bon, est-ce que vous êtes vraiment sûre de vous ? Est-ce que c'est ce que vous voulez ? Est-ce que... J'avais peur de ne pas oser lui demander. Je lui ai dit, bon, voilà, je veux être stérilisée. Elle ne m'a pas posé de questions, elle m'a dit quand. Et puis voilà, c'est simple, en fait. Déjà, elle est super jeune, donc j'étais très étonnée. Voilà, elle fait jeune, elle est hyper dynamique, souriante. Puis naturellement, voilà, ça s'est fait. On a pris rendez-vous pour la prochaine fois et puis c'est parti, quoi. Pour moi, c'est le 6 mars prochain. J'ai hâte. J'ai surtout hâte d'être à 3 mois après pour pouvoir arrêter la pilule et que ce soit... Voilà, s'il y a une période de 3 mois de cicatrisation, entre guillemets, pendant lesquelles on doit continuer à prendre notre contraception habituelle. Voilà. Et à partir de là... Après, c'est youpi et vive la liberté, quoi. J'ai beaucoup lu, vous pouvez le regretter, je suis d'accord. Maintenant, je pense que, en tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai 40 ans. Ça fait bien 5 ans que j'y pense et que j'y réfléchis. Je sais aujourd'hui que je ne regretterai pas parce que je ne veux plus d'enfants. Je n'en veux plus. Que ce soit avec mon mari, que ce soit avec un autre homme si je me séparais, je ne veux plus d'enfants. J'ai fait ma part. J'ai 2 enfants. Une fille de 18 ans, un garçon de 14 ans. Très beaux enfants que j'espère élever du mieux possible. Déjà, les grossesses en soi, c'est pas les périodes que j'ai vraiment aimées. J'ai voulu mes enfants, il n'y a pas de problème. Mais c'est déjà... difficile d'élever 2 enfants à notre époque, un adolescent qui est très compliqué à vivre, non, 3, j'aurais pas pu, je crois, psychologiquement c'est compliqué, c'est une décision que j'ai prise seule et dont j'ai parlé à mon mari qui a validé, voilà. Lui, sa seule crainte c'était qu'il y ait des conséquences un peu comme le stérilet, bon, quand il a été rassuré par rapport à ça, même lui il n'en veut plus, donc pas de problème quoi.
Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, ça peut être lui qui fait cette démarche-là plutôt que moi ?
Non, parce que, alors, là c'est peut-être vieux jeu, mais j'ai confiance qu'en moi, en matière de contraception. Et je ne le vois pas lui faire la démarche, non, c'est pas dans son caractère. Voilà. C'est ma... Non, je ne le vois pas du tout aller dire bonjour, je veux plus d'enfants, non. Je connais très peu d'hommes qui vont voir des urologues de toute façon. C'est quand même plus simple de parler à son gynéco que d'aller faire la démarche de trouver pour un homme, quoi. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, mon mari, ça va faire 22 ans qu'on est ensemble. On arrive à sortir, on retrouve notre vie qu'on n'a pas vraiment eue quand on était jeune. On n'avait pas d'argent, on ne pouvait pas trop sortir, on a fait des enfants, on a fait notre vie, on a grandi ensemble. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, il en a 44. On a les moyens de sortir, de partir en week-end, de voyager si on veut. Et on peut le faire parce que nos enfants sont grands. On ne va pas en plus se remettre une limite avec un enfant pour repartir dans tout ça, chercher des moyens de garde. Et... Non, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est notre tour. Alors, on vit notre vie de couple. Même si on a toujours eu une vie de couple, mais on a une vie de parents avant tout. Voilà. Maintenant, on va en profiter tous les deux. On commence. Mais ce sera encore plus de liberté. Après, sans avoir cette épée de Damoclès, sans avoir à penser à prendre mon petit cachet tous les soirs, sans avoir à se dire « Ah, j'ai mal au ventre parce que j'ai un stérilet qui est mal mis ou parce que je sens que ça me convient pas. » Bon, après, tous les gynécos ne le font pas, les gynécos vous en parlent pas. Je pense que c'est encore un sujet hyper tabou. Aujourd'hui, dire « Moi, je veux plus d'enfants ou j'en veux pas tout court, je veux que ce soit définitif et radical », ça se fait pas. Vraiment, ça se fait pas. On vous regarde avec des gros yeux, comme si vous étiez une martienne. Comment, aujourd'hui, une femme peut dire « Je ne veux pas d'enfants » et surtout faire en sorte de plus jamais en avoir ? C'est pas très admis, mais ça va finir par venir. Et puis, je m'assume, quoi. Moi, j'ai 40 ans, j'ai ton compte à rendre à personne, si ce n'est à mon mari, qui s'en fout. Donc, voilà.
France Culture, les pieds sur terre.
J'ai longtemps été sous contraception physique, c'est-à-dire le préservatif. Ensuite, j'ai été sous implant. La raison principale de ce choix était que je suis extrêmement tête en l'air. La pilule, quand on est tête en l'air, c'est quand même problématique. Donc, j'ai attendu que des options un peu plus intéressantes se présentent. J'ai eu un implant, qui est tout de même extrêmement pratique pour éviter de l'oublier. Et quand on me l'a enlevé, j'ai cherché une autre solution, parce que, aussi pratique qu'il soit, sur moi, ça avait des effets secondaires significatifs, en particulier en matière de libido. Donc, je me suis fait poser un dispositif intra-utérin, donc un stérilet au cuivre. Je devais avoir 27 ans à l'époque, en me disant, voilà, je pose un stérilet, parce que je sais qu'à 27 ans, personne ne voudra me stériliser. Je n'ai pas encore 30 ans, ça passera pas. Donc, je m'étais déjà bien renseignée. Je pose le stérilet, et quand il sera temps d'enlever le stérilet, normalement, je devrais pouvoir y arriver. Et effectivement, vers 30 ans, j'ai commencé à chercher plus avant, donc j'avais déjà beaucoup d'informations. J'avais des informations en particulier sur une nouvelle technique qui permet de faire une obturation des trompes définitive sans qu'il y ait de chirurgie. Et donc je m'étais un peu renseignée. Dans l'intervalle, la méthode s'était quand même assez répandue. Donc à un moment donné, j'ai décidé de prendre des mesures définitives sur la question. Je suis allée directement à la Pitié-Salpêtrière, où j'ai pris rendez-vous. Un charmant interne m'a reçue. C'était la première fois qu'on lui faisait cette demande-là, donc il était tout content de découvrir. Il allait chercher les papiers, il m'a tout bien montré. Aucune espèce de jugement ou de protestation. Le rendez-vous a été fixé 4 mois plus tard. La partie difficile, en fait, ça a été de négocier justement la méthode que je voulais, la méthode non chirurgicale. Parce que, comme elle est relativement nouvelle, elle n'est pas recommandée en première intention pour les femmes de moins de 40 ans. Donc il a fallu que j'argumente auprès de la chirurgienne, qui elle-même m'a dit qu'elle avait dû se battre auprès de son chef de service pour m'obtenir la méthode que je voulais. Comme je suis assez sensible de l'utérus, on m'a endormie. De mon point de vue, c'était rien passé, donc j'avais mal nulle part, à part l'endroit où m'avait mis un cathéter, enfin voilà. Très bien, je suis rentrée chez moi, j'ai beaucoup dormi parce que l'anesthésie terminait de faire effet. Et puis, bah, 2 mois après, on doit faire un contrôle. Donc on fait une radio, on voit que effectivement les implants sont là, qu'ils bougent bien les trompes. Et puis, bah, tout va bien. Et c'est une décision dont j'ai informé mon copain. Mais d'une part, lui alors, il s'en fiche, mais d'une force. Il ne veut pas d'enfant, je ne veux pas d'enfant, on est d'accord là-dessus. Ma décision n'a rien à voir avec lui. Et si demain on rompt, bah, j'ai toujours fait ma stérilisation, c'est bon, c'est réglé, j'ai toujours pas à me prendre la tête. C'est une affaire entre moi et mon utérus. Je ne me considère pas déjà apte à prendre soin de moi-même de façon que je considère comme satisfaisante. Alors quelqu'un, si aujourd'hui je réalise que la méthode n'a finalement pas marché et que je suis enceinte, demain j'ai rendez-vous à l'hôpital pour avorter. Je n'ai jamais voulu d'enfant, c'est-à-dire que adolescente déjà, l'idée de me reproduire ne me plaisait pas du tout, contrairement à mes camarades. Mais je me disais que finalement, c'est pas forcément à 15 ans qu'on prend ce genre de décision, mais c'est un sentiment qui n'a pas du tout évolué, malgré les années qui passaient, malgré les amis très chers qui se sont mis à avoir des enfants, naturellement, malgré le caractère extrêmement mignon et choupinet des 10 enfants. Et de façon générale, je m'entends très bien avec les enfants, mais je n'ai absolument pas envie d'en avoir. Donc honnêtement, je ne sais pas psychanalytiquement de quelle échelle je suis tombée pour décider que je ne voulais pas d'enfants, mais je ne veux pas d'enfants. Je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas être responsable d'un enfant, et je ne veux pas d'enfant, finalement, ça se mord la queue. Après, encore une fois, il y a plein de bonnes raisons objectives. Mais ces raisons objectives, elles pourraient varier dans le temps, tandis que le fait que je ne veux pas d'enfant, je ne le vois pas varier. Je pourrais vous dire, oh, le monde est tellement affreux, il y a la guerre partout, la famine, tout ça, je ne veux pas faire naître un enfant, mais ce serait de la mauvaise foi, enfin, je ne veux pas d'enfant. Indépendamment du monde, indépendamment du père potentiel, indépendamment de d'où j'habite ou de ce que je fais, je ne veux pas d'enfant. Peut-être que dans 6 ans, je me réveillerai et je serai déçue. Bah, je serai déçue, hein, c'est la vie. Enfin, c'est vrai pour toutes les décisions au monde. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que seulement dans ce cas-là, l'hypothèse d'un changement d'avis est évoquée quand on en discute. C'est pas quelque chose qu'on dit aux gens qui décident de se marier ou aux gens qui décident d'avoir des enfants. Donc. J'ai pas eu de réaction très négative après coup, en fait. J'avais des amis qui pensaient que c'était pas une très bonne idée avant, mais qui se sont dit sans doute, une fois que c'était fait, soit elles se sont dit que c'était trop tard pour critiquer, soit elles se sont dit, si elle l'a vraiment fait, c'est qu'elle le voulait vraiment, même après avoir entendu nos arguments, donc arrêtons-nous là. Voilà, mes parents n'ont pas d'objection à la chose. Quand je leur en avais parlé avant, ma mère voulait me donner l'adresse de la maternité où elle-même s'était fait ligaturer les trompes après avoir eu 2 enfants. Des jumeaux d'un coup, elle s'est dit que ça suffisait, que maintenant on allait prendre une solution définitive. Et donc elle était allée voir son obstétricien pour lui demander de faire une ligature des trompes. Et son obstétricien lui a dit « Je comprends tout à fait votre décision, mais je ne vais pas le faire pour vous. Parce que j'ai eu trop de mauvaises expériences de femmes qui revenaient ensuite » en disant « S'il vous plaît, docteur, réparez-moi ». Donc, elle a été référée à un collègue, et ça a été fait par célioscopie. Et je crois qu'à l'époque, ça n'était pas du tout remboursé par la Sécurité sociale, et que le médecin avait été cool et avait inscrit l'opération comme une célioscopie d'exploration, et non pas comme ligature des trompes, de façon à ce que ça puisse être remboursé comme célioscopie d'exploration. Elle m'avait raconté ça quand j'avais 10 années. Donc je savais que ça existait, je savais que c'était une option quand on considérait qu'on avait eu assez d'enfants. Et puis, je me suis sentie ravie, contente enfin, parce que c'était un projet qui traînait depuis 5 ou 6 ans. Je m'étais, entre le début de mes renseignements, de mes mails, de mes lectures des essais cliniques de la méthode Essure, des débats avec moi-même sur est-ce que j'étais sûre de moi, tout ça. Enfin, c'était terminé. Donc pour ma part, je suis contente d'avoir pu le faire à donc 31 ans. Ça fait 2 ans maintenant. Par contre, je suis tout de même un petit peu ennuyée par l'idée que c'est un type de décision qui ne peut se prendre que très tard dans la vie reproductrice d'une femme. Globalement, entre 15 et 45 ans, il y a quand même 30 ans, il y a beaucoup de médecins qui considèrent que se faire stériliser avant 40 ans, c'est complètement... Alors, irresponsable, je vois pas très bien comment, irresponsable vis-à-vis de qui, mais en tout cas, ils ont l'air de trouver ça un peu immoral. Je vois pas très bien l'intérêt d'une opération qui est un petit peu lourde par rapport à juste un stérilet ou quelque chose comme ça, si c'est pour avoir juste 5 ans de tranquillité. Le but du jeu, c'est d'être tranquille. Bon, moi, voilà, j'ai réussi mon coup, je suis tranquille pour 15 ans, jusqu'à la ménopause. Je n'ai plus à m'en faire, jamais. Et c'est quand même une liberté incroyable. J'ai toujours eu des cycles extrêmement irréguliers. Je me suis retrouvée à avoir une règle qui me disait que au bout de 50, et parfois jusqu'à 100 jours sans règles, j'allais acheter un test de grossesse. Il n'a jamais été positif, parce que je sais que j'ai des cycles irréguliers, mais je ne pouvais pas me permettre. Si je laissais passer une grossesse et que j'en ratais le début, je pouvais me retrouver à ne plus tomber dans les délais de l'avortement. Donc ça a été quelque chose qui m'a hantée pendant 15 ans. Donc cette stérilisation m'a enfin permis de me sortir de cette angoisse, Et je n'y suis encore pas tout à fait habituée, même maintenant, quand je me rends compte que, ah tiens, 40 jours pour mes règles. Ah mince, j'espère que... Ah non, c'est bon. Oh, c'est bon. Et vraiment, ça soulage.
Moi, initialement, dans ma pratique, étant hospitalière, je faisais peu de stérilisation tubaire parce qu'il y avait peu de patientes qui venaient me voir pour cette demande. Donc je parle de ça, ça date du début des années 2000. Donc la technique Escher est arrivée en France en 2002. Et ça correspond aussi, sur un plan légal, la loi sur la stérilisation des personnes. Je dis bien des personnes, pas simplement des femmes, mais les hommes aussi peuvent le faire. Donc une loi qui date de juillet 2001. Une loi qui est très ouverte, qui dit que la personne qui fait cette demande doit être majeure, responsable. Si elle est sous tutelle, il faut l'accord du juge des tutelles et avoir réfléchi pendant 4 mois et demander par écrit sa stérilisation. Donc je me suis mis à poser des échours et former des gynécologues à cette technique, donc voir de plus en plus de patientes pour cette demande. Et il y a quelque chose qui m'a frappée toutes ces années durant, c'est que quand les patientes arrivaient dans mon bureau de consultation, elles commencent toujours par se justifier de leur demande de stérilisation avec une certaine culpabilité et puis parfois de la révolte en disant « mais... j'ai eu un mal de chien à vous trouver, mon gynécologue ça fait 5 ans qu'il me dit que je suis trop jeune, j'ai trouvé vos coordonnées par internet, mais est-ce que vous allez accepter vraiment de me le faire ?» Et donc, quand ces femmes arrivent dans mon bureau de consultation, c'est que elles ont déjà fait tellement de recherches, tellement de démarches, que le fait qu'elles soient là suffit à comprendre que oui, bah, elles veulent une stérilisation et qu'il faut les accompagner dans cette demande. Je peux vous raconter l'histoire d'une patiente, ça remonte à plusieurs années, âgée de 29 ans, qui demandait une stérilisation tubaire, qui n'avait pas d'enfant, son conjoint n'avait pas d'enfant, son conjoint était américain. Elle avait un bagage social et culturel élevé. Et elle demandait absolument une stérilisation tubaire, m'expliquant qu'elle ne voulait pas avoir de descendants. Pour elle, c'était fondamental. Et son mari non plus, parce qu'ils avaient eu des histoires dans l'enfance très dures, très violentes, très, très pénibles. Et donc, les deux s'étaient retrouvés autour de ce projet d'arrêter ce massacre, si on peut dire, et de surtout ne pas avoir de descendance. Elle m'a dit, de toute façon, si vous me stérilisez pas, j'irai aux États-Unis et je me paierai ma stérilisation. Comme son mari était américain, c'était plus facile. Je l'ai fait. Voilà, c'est des choses qu'il faut savoir entendre. Là, mais c'est une minorité des femmes qui consultent pour ça. Les vies ne se construisent pas toujours d'une manière aussi simple et naturelle que avoir une maison, des enfants, une retraite, et voilà. Et autre cas de figure, des femmes qui auraient été presque en danger de devenir enceintes pour des raisons de comorbidité, je sais pas, hypertension, diabète, obésité, etc., ou des patientes qui ont eu un passé obstétrical ou gynécologique lourd, des patients qui ont des enfants handicapés, pour lesquels il faut donner beaucoup de soins, et l'arrivée d'un nouvel enfant ne serait pas gérable dans la vie au quotidien. Il faut comprendre toutes ces choses-là, enfin prendre l'intégralité des choses dans la demande, quoi. Dans mon expérience, plusieurs patientes qui se sont retrouvées en situation d'avortement quelques mois, l'année précédente, leur demande, plus jamais ça, plus jamais ça. Je mets la stérilisation tubaire dans les contraceptions. C'est une contraception définitive et non pas comme situation de dernier recours en cas d'échec des autres. Je me rappelle d'un cas comme ça. J'étais praticien hospitalier en Grande Couronne, au sud de Paris. Et accouche une patiente d'un cinquième ou sixième enfant. Ils étaient tous placés. Et bon, tout le monde dit, mais enfin, quand même, elle va encore revenir l'année prochaine et on va recommencer. Et je l'ai stérilisée.
À sa demande.
Je lui ai proposé, elle a dit oui. Voilà, je pense que ça fait aussi partie de notre travail, dans certains cas exceptionnels. On n'allait pas laisser les choses qu'elles viennent poser un enfant tous les ans à la maternité qu'on mettrait en famille d'accueil après la pouponnière. Il y a un moment où... Ok, la France est un pays de liberté, mais il y a des droits et des devoirs. Quand on est parent, on a aussi un devoir d'éducation. À partir du moment où on n'est pas capable, dans le sens médical du terme, d'élever un enfant, bah, le mieux c'est de ne pas en faire. Ce qui m'attriste le plus, c'est le non-accompagnement des gynécologues vis-à-vis des patientes qui sont en demande de stérilisation. Et là, je pense qu'il y a un vrai, vrai effort à faire sur le plan de l'éthique médicale. J'en arrive presque parfois à présenter mes excuses en tant que gynécologue aux patientes qui galèrent pour trouver quelqu'un capable d'entendre leurs demandes. C'est vraiment ce que j'aimerais le plus faire bouger dans notre société française, quoi.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec stérilisation volontaire, un reportage de Zineb Drieff, réalisé par Thomas Jost avec un coup de main d'Emmanuel Geoffroy. Merci à Fabienne, à Elodie, à Carole, à Caroline Denos-Peyère, à Julie B et à Jessie G. Vous pouvez nous adresser des commentaires, des réactions, partager nos émissions si elles vous ont intéressé sur les fameux réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui vous attendent tous deux nombreux. Je précise que c'est Sandrine Chaperon, l'attachée de production des Pieds sur Terre, Céline Autin, notre stagiaire, que cette émission a été diffusée pour la première fois en février 2015.